I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Four girls are about to discover the dark side, the craft.
You girls, watch out for those weirdos.
We are the weirdos, Mr.
L'autre jour, j'ai regardé The Craft pour la toute première fois de ma vie. Et oui, ce teen movie sorti en 1996 a marqué sa génération en mettant en scène un quatuor de jeunes sorcières qui découvrent leurs pouvoirs en les utilisant à des fins peu louables pour se venger de leurs camarades ou pour vaincre leurs complexes. En vain, bien sûr, le film nous l'apprendra. Si j'ai trouvé l'intrigue marrante et kitsch à souhait comme j'aime, j'ai été surprise par la fin, dans laquelle les quatre ados finissent par se livrer à une guerre sans merci, faisant définitivement une croix sur la sororité qui les unissait au début. Et le film devient alors une compilation de clichés sur des adolescentes hystériques. Je me suis aussitôt fait la réflexion, plus personne ne ferait un tel film aujourd'hui. Et ça tombe bien puisque The Craft a été réécrit et son remake, The Craft, de nouvelles sorcières, sorti à l'automne 2020, cette fois-ci réalisé par Zoe Lifter-Jones, une femme donc, offre un casting hyper inclusif avec un scénario et des enjeux remplis de bienveillance. Mais j'avoue l'avoir trouvé plus sage, avec moins d'aspérité. Est-ce que j'irais jusqu'à dire plus chiant ?
Je commence à me faire du souci.
Désolée, je traînais avec mes copines.
On est allé trop loin. Tout ça, c'était qu'un jeu pour toi ? Chérie.
Non. Je me sens différente.
Faites gaffe avec tous les barges qu'il y a dans la nature.
Les barges, c'est nous, monsieur.
Entre 1996 et 2020, la différence est frappante. Les teen movies pour jeunes femmes ont drastiquement changé de ton. Alors j'ai trouvé intéressant de se pencher sur la question suivante. Comment les teen movies s'adressent-ils aux adolescentes depuis les années 80 et comment construisent-ils les jeunes femmes qu'ils ciblent ? Bienvenue dans Affiché.
Boys, take his gun.
Quand on a une plage dans la tête.
What you got between your legs is your business, and what I got is mine.
You may not be able to fight like a samurai.
So fat.
But you can at least die like a samurai.
Et ne pas laisser le cinéma français tranquille.
Empieza el matriarcado. Dracarys.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Débat d'Affiché, le podcast qui met les femmes en haut de l'affiche. Je suis Alix Martineau, responsable des podcasts chez Mademoiselle et rédactrice pour les rubriques cinéma et séries, et bien sûr, votre hôtesse de ce podcast. Cette semaine, on va s'intéresser aux teen movies et à la façon dont ils s'adressent aux jeunes filles et comment ils les modèlent. Et pour répondre à cette vaste problématique, je me suis entourée d'expertes en la matière. Je vous présente Clara, Célia et Marine. Bonjour à toutes les trois.
Bonjour. Bonjour.
Est-ce que vous pourriez vous présenter à nos auditeurs et auditrices d'Affiché et nous donner votre teen movie préféré et nous expliquer pourquoi c'est votre préféré ?
Eh bien, je vais commencer. Je suis Marine Normand, je suis la directrice générale de Mademoiselle. Et mon teen movie préféré, je pense que c'est Collège Attitude, qui était sorti, je crois, en 98 ou 99. Et Never Been Kissed, avec l'accent tout pourri anglais, juste pour Drew Barrymore et Michael Vartan, voilà.
Tu as en face de toi le nouveau reporter chargé d'une mission d'infiltration pour le Chicago Sun-Times. Je m'appelle Josie Geller, je suis une élève du lycée.
Vous êtes sûre d'avoir 17 ans ?
Ça va, les copines ? Oh ! Il bat tous les records.
Elle s'est complètement plantée lors de sa première mission en tant que reporter.
Mais on l'aura, cet article !
C'est lui, votre sujet.
Vous êtes cinglé ! C'est mon professeur.
Waouh, je l'ai jamais vu.
C'est pas vrai.
Meilleur. Moi, c'est mon cauchemar d'enfance, mais fin d'adolescence. Je devais le louer absolument toutes les semaines pour mes amis. C'était vraiment un cauchemar. J'espère ne plus jamais le revoir de ma vie.
Et du coup, Célia, est-ce que tu peux te présenter et donner ton teen movie préféré ?
Donc du coup, je m'appelle Célia Sauvage. Je suis chargée d'enseignement à la fac. Et du coup, je donne en partie des cours sur les teen movies et j'ai coécrit un livre dessus. Et mon teen movie préféré, c'était un vrai casse-tête. C'était hyper dur pour moi de choisir. Donc ouais. J'ai choisi Virgin Suicide.
Parce que...
Voilà.
On a affaire à une rêveuse, complètement déconnectée de la réalité.
Je vais t'inviter à sortir.
T'as aucune chance.
Regardez, elle rit. Il la fait rire.
Je suis venu vous dire que mes intentions concernant votre fille sont tout à fait honorables. Mais quelles sont-elles, s'il vous plaît ?
On a tant parlé de ces filles au long des années.
Ces petites ont un bel avenir devant elles.
Mais nous n'avons jamais trouvé la réponse.
J'analyse son geste comme un appel.
Il paraît que c'était un accident.
À ton âge, on ne connaît pas encore les souffrances de la vie.
Manifestement, docteur, vous n'avez jamais été une fille de 13 ans.
Les quatre sœurs n'ont pas hésité à mettre leur vie en péril.
Je pense que c'est le grand souvenir de quand j'étais jeune, déjà, qui m'a vraiment fait découvrir tout ça. J'ai longtemps hésité avec Scream, puis je me suis dit, bon, deux teen movies hyper hard, peut-être que je vais en choisir qu'un, finalement. mais ce que je trouve hyper bien dans le film, j'en ai reparlé récemment, et c'est vraiment le côté hyper révolutionnaire en avance. On parle vachement du male gaze, du female gaze aujourd'hui, et je pense que c'était en avance un peu avant tout le monde. Enfin, il y a beaucoup d'autres films qui l'ont fait, mais sur les teen movies, c'est, je pense que le premier grand teen movie a vraiment parlé de ça, de A à Z, et voilà, pour moi c'est vraiment le film qu'il faut voir, et ça n'a pas vieilli, je pense.
Ouais, je suis d'accord, moi je le regarde assez régulièrement en plus, et j'aime trop, bah, j'adore Sofia Coppola, mais...
Moi aussi, du coup.
Moi aussi, vraiment. On aura peut-être un débat après sur le fait qu'elle a quand même après fait de plus en plus de la merde. Enfin, je suis désolée de le dire. Il y a eu Virgin Suicide, après il y a eu Marie-Antoinette. Et
qui
après,
est absolument on est excellent. Marie-Antoinette, voilà, après... moi je ne débat pas sur ce film. Je voilà. Non, mais,
moi, alors du coup, je la défendrai jusqu'au bout.
D'accord.
Coup,
très bien.
Très bien. Il faut que quelqu'un le fasse.
D'accord, ok, bah, pas de soucis.
Et du coup, Clara, est-ce que tu peux te présenter ?
Tout à fait. Moi, je m'appelle Clara, mais sur Internet, je m'appelle Clarinette. Et je fais des vidéos sur YouTube, entre autres, qui portent sur la culture au sens très, très large du terme. Et à côté de ça, je suis aussi des études qui portent sur les médias, donc tout se rejoint. Et moi aussi, j'ai eu beaucoup de mal à choisir mon teen movie préféré, mais je pense que c'est comme ça quand on aime les choses. Du coup, je pense que si je devais en choisir un peu classique, je parlerais de 10 bonnes raisons de te larguer.
Ah, yes. Ou
alors, 10 things I hate about you.
D'accord, Bianca sortira. Quand sortira sa sœur ?
Jamais elle sortira avec un mec, elle est trop givrée pour
alors,
ça.
Alors tu ne sortiras pas ? Quel génie !
Je suis sûr qu'il y en a un de vous que ça brancherait de sortir avec Katharina Stratford.
Éventuellement, si on était les deux seuls rescapés de l'univers et qu'il n'y a plus de chèvres. C'est sûr, il n'y en a plus ?
Personne ne peut sortir avec cette fille.
Imagine la scène, toi, moi et mes bras qui t'entourent.
Et toi, couvert de mon vomi.
Comme tu sais, c'est le bal des fins d'année.
Ça n'est qu'un cours de gym, tu devrais te détendre un peu.
J'adore le casting, j'adore aussi le fait que les personnages ne sont pas aussi clichés qu'on a envie de croire que les personnages sont clichés dans les teen movies. Et si je devais être un peu plus fille de 2020, j'aurais envie de répondre Lady Bird de Greta Gerwig.
Lady Bird ? C'est votre prénom ?
Oui.
Pourquoi est-il écrit avec des guillemets ?
Je m'appelle comme ça. C'est le nom que je me suis donné à moi-même.
Lady Bird dit toujours qu'elle est née du mauvais côté des rails. J'ai toujours cru que c'était une métaphore. Mais il y a vraiment une voie de chemin de fer.
C'est quand le bon moment pour coucher ?
Tu couches avec quelqu'un ?
Je suis prête. Je voulais que ce soit spécial, c'est tout.
Pourquoi ? Tu vas avoir tellement de sexe banal tout au long de ta vie.
Nous avons peur de ne jamais pouvoir échapper à notre passé.
Tout ce qu'on te donne, c'est jamais assez. Il t'en faut toujours
plus. Mais non, maman.
Nous avons peur de ce que l'avenir nous réserve. Nous avons peur de ne pas être aimé.
Il faut que tout tourne autour de toi, tout le temps, sinon tu fais une crise.
De ne pas être apprécié.
Tu veux que je te dise un truc, les seins de ta mère, c'est même pas de vrai. Elle a fait un mauvais choix à 19 ans. Non, deux mauvais choix.
De ne pas réussir.
Je voudrais que tu présentes la meilleure version possible de toi-même.
Est un gros coup de cœur cinéma pour moi, peut-être un peu pour les mêmes raisons, parce que j'adore le casting et que pareil je le trouve différent sur certains points qu'on pourra peut-être évoquer probablement après, mais voilà mes deux petites sélections à moi qui j'espère vous plaise aussi, parce que sinon je serais très, très déçue.
Moi, vraiment, c'est ma passion des films récents vraiment qui est sortie. Et surtout, je pense qu'il faut souligner la performance de Greta Gerwig qui réussit à se faire nominer aux Oscars pour la meilleure réalisation pour un teen movie, ce qui est absolument improbable. Même Sofia Coppola n'a pas réussi le challenge.
Je suis tellement d'accord.
Et c'est bien dommage. Mais je pense que c'est vraiment aussi ce qui fait que le film restera a priori hyper culte aussi.
Et je pense qu'il y a toute une mouvance maintenant de nouveaux teen movies qui sont vraiment chouettes parce que qu'ils apportent une lecture un peu plus, j'ai envie de dire, parce que Greta Gerwig, elle a quand même une forme, enfin, elle incarne un peu l'actrice quand même new-yorkaise, avec un peu de, qui a fréquenté des cinéastes qui sont un peu connus et tout. Et donc, je pense qu'elle a une forme de crédibilité qu'elle a apportée à son film. Et faire de, comme un premier film, un teen movie, ça veut dire quelque chose de la, l'importance qu'on donne à ce genre. Et le fait qu'en plus l'Académie lui ait donné cette importance-là, je trouve ça hyper chouette, quoi. Je suis hyper d'accord avec toi.
Bah merci beaucoup pour cette présentation et je vous propose de revenir un petit peu sur la définition du teen movie et de ses origines et notamment du teen chick flick dont on va, auquel on va s'intéresser particulièrement aujourd'hui. Alors Célia, je sais que tu es une grande spécialiste, est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur voilà, les bases?
Du coup, j'ai une grosse pression.
Non.
Déjà, ce qui est intéressant, souvent, le grand débat, c'est à savoir est-ce que teen movie, c'est purement américain ou pas. Ça, c'est la première question. Moi, je fais partie vraiment de la team des gens qui pensent que les teen movie à la française, ça n'existe pas tellement. D'ailleurs, je dirais teen movie à la française et je ne le traduirais pas.
Oui, c'est, puis c'est hyper différent. Enfin...
Ouais, le genre n'est pas du tout construit de la même façon. La matrice n'est pas la même en France. Du coup, c'est vraiment un genre qui naît aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale, quand il y a vraiment le baby boom, le boom de comme ça. L'accès à la télévision, la démocratisation de l'accès aussi au cinéma. Donc beaucoup de jeunes s'ennuient profondément. À un moment donné, il faut les occuper. Donc on va les occuper au cinéma. Ils vont aller dans les drive-in, etc. Tout le fait aussi du coup que toute la culture ado est hyper centrée, en tout cas dans ces années-là, autour de la culture de la voiture, d'aller dehors au diner, s'occuper. Donc le genre, après, depuis les années 50, honnêtement, n'a pas énormément bougé, puisque dès le début, l'idée du genre, c'est d'être hyper protéiforme et de se dire qu'absolument tous les sous-genres peuvent s'y retrouver. Alors on n'a pas encore vu de western teen, mais ça pourrait venir, mais vraiment absolument tous les sous-genres s'y retrouvent, que ce soit la comédie, le film d'horreur, les comédies romantiques, les comédies plus sexuelles, des films beaucoup plus sérieux, etc. Et donc ça, c'est, je pense, qui fait que le genre est hyper durable en fait aujourd'hui, parce qu'on peut reprendre absolument tout et n'importe quoi et le remodeler avec un aspect plus générationnel. Et ce qui est intéressant du coup, c'est de voir aussi progressivement comment le genre a été d'abord perçu comme quelque chose d'hyper mainstream pour faire d'argent,
ouais,
il faut que les gens y aillent. Et je dirais à partir des années 80, progressivement une sorte de glissement vers ce qu'on appelle le cinéma indépendant américain, donc qui est un peu l'opposé d'Hollywood, enfin techniquement l'opposé. Donc c'est pas des grosses majors qui vont produire les films, et on a une espèce de glissement comme ça, donc d'où par exemple vraiment là, si on prend sur nos films préférés entre Never Been Kissed, 10 bonnes raisons de larguer et Virgin Suicide, on a les deux productions vraiment Hollywood versus le cinéma indépendant. Et ça, ce qui est assez intéressant, c'est de voir aussi comment le teen movie, c'est un film sur ou pour les ados, mais ça peut vraiment être un film sur l'adolescence qui n'est pas forcément visé pour les ados. Typiquement, tous les films nostalgiques de Grease, American Graffiti ou même Virgin Suicide, qui est un peu le grand débat, est-ce que c'est vraiment un film pour ados? Mes parents ne sont pas trop inquiétés pour moi à l'époque, mais ils auraient pu. Hein.
Parce que là, quand tu as cité Virgin Suicide comme teen movie, moi, je ne l'aurais jamais mis dans cette case, quoi, alors que c'est aussi un de mes films préférés.
Ouais.
Mais pour moi, c'est complètement indépendant. Et c'est vrai que en raisonnant, oui, ça raconte le process
de l'adolescence,
des yeux d'adolescence sur des adolescentes. Mais je ne l'avais pas du tout lié au teen movie, par exemple. Ouais.
Je pense que la définition première, c'est ça. Ça va être un film qui parle de l'adolescence. Est-ce que c'est pour ou pas pour des ados? C'est l'autre question. Moi, je fais vraiment partie des gens qui pensent qu'il faut élargir. Et typiquement, quand j'avais commencé à écrire le bouquin, notre éditeur nous a dit, on est OK pour parler d'American Pie, mais par contre, Virgin Suicide et Larry Clark, c'est pas dans le même sac. Et alors, avec la co-autrice Adrienne Boutin, on est hyper choqués en disant, non, un teen movie, c'est pas forcément que pour des ados, c'est peut aussi pour des grands ados, pour des adultes qui pensent encore être hyper nostalgiques de leur adolescence. Honnêtement, ça marche encore. Je pense que tous les gens qui adorent encore John Hughes aujourd'hui, les années 80, alors qu'on n'a pas vécu les années 80 pour la plupart. Enfin, en tout cas, moi, je suis née sur la fin, donc je ne les ai pas vraiment vécues.
Je me sens complètement visée, donc j'écoute.
Mais je pense que ouais, c'est la première chose. C'est-à-dire qu'en termes de forme, on va avoir des films très, très différents. En termes d'idéologie, de ce qu'on véhicule, les valeurs, on a des films très différents. Si on prend un Twilight versus, par exemple, American Pie, à la fois, c'est exactement la même chose et en même temps, pas du tout la même chose. Et c'est ça qui est intéressant, c'est vraiment principalement un genre qui se focus sur cette question-là. Qu'est-ce qu'on dit et comment on représente l'adolescence? Effectivement, on a des films très très différents.
Et par exemple, tu fais la séparation avec les films français, genre Un génial, mes parents divorcent, pour toi, c'est pas considéré comme un teen movie, quoi.
Bah, alors déjà, le fait que pour moi, c'est des films américains initialement, le terme est en plus hyper difficile à traduire en français. C'est comme hyper lourd de dire c'est un film sur les ados et pour les ados. Enfin, on n'a pas d'équivalent déjà en termes de traduction qui pose le problème du genre aussi. Et la grande différence, si on compare la production américaine versus la production européenne, où il y a déjà un peu des nuances, si on prend par exemple l'Angleterre et la France, aux États-Unis, je pense que la place centrale, notamment des parents, aux États-Unis, c'est vraiment centré sur les ados. Donc les parents, si on va jusqu'au bout dans Elephant, par exemple de Gus Van Sant, les parents, la tête n'est pas filmée, c'est coupé. Donc il y a vraiment on va dans une espèce de truc hyper radical, les parents ne servent à rien, sont hyper secondaires. En France, tous les teen movies à la française, du coup, sont hyper centrés sur la question du conflit générationnel, qui est lié historiquement au fait que c'est post-mai 68 en France que ça débarque. Et donc il y a vraiment ce truc, les ados sont fâchés contre les parents, les profs, l'institution. Et donc la moitié du film, on prend La Boum, LOL, tous ces films, est hyper centré sur la place des parents. Mais là où aux États-Unis.
J'ai jamais pensé,
Dans les films américains, les parents, ils sont plus là. Par contre, dans les séries américaines, on pourra peut-être en reparler, les parents sont hyper présents parce que c'est aussi, on vise un public qui va être derrière la télé, il faut regarder la série avec sa mère, avec son père, etc. Au cinéma, c'est pas du tout comme ça qu'on le pense. Du coup, en France, il y a vraiment cette idée que le conflit générationnel est hyper central. Et en Angleterre, par exemple, c'est beaucoup plus centré sur la lutte des classes. Donc, tous les films comme Fish Tank, Caisse, Transputing, etc.
Je pense à Sing Street aussi, qui est un film, enfin, c'est exactement ça, quoi. C'est le film anglais sur les ados, mais qui est hyper embourbé dans les questions de classe et tout le conflit avec l'Irlande, etc. Donc, oui, en fait, ce que tu dis fait hyper écho à tout ce que. Mais du coup, moi, je me demandais, par exemple, un film comme Call Me By Your Name, par exemple, qui porte sur un adolescent et moi, je l'aurais pas placé dans le teen movie. Je l'aurais plus qualifié de coming of age movie, et je pense que c'est une notion qui est un peu flou entre les deux. Toi, avec ta vision des choses, tu le places où, ce film ?
Alors, pour moi, déjà, la majorité des coming of age, ils rentrent dans les teen movies.
On en parlait hier.
C'est vraiment un type de récit, en fait, plus, ou une thématique centrale sur la question de l'apprentissage, de l'initiation, qui, à la fois, peut se retrouver n'importe où dans un film qui n'est pas teen, mais en même temps, la majorité des teen movies sont finalement des coming of age, la plupart. Ou alors, repense cette idée-là. Est-ce que vraiment, on a quelque chose à apprendre à la fin d'un film ado ? Est-ce qu'on a le temps ? Qu'est-ce qu'on doit apprendre ou pas ? Et pour moi, Call Me By Your Name, c'est pas du tout une honte, mais c'est totalement un teen movie. La plupart des adultes se diront pas « Ah, chouette, j'ai adoré un teen movie ». Ils se diront « C'est super, j'ai adoré un film avec un ado ». Et pour moi, c'est totalement un teen movie. C'est vraiment centré sur ça, sur son rapport, les premiers émois, etc.
Mais comme quoi, les teen movies, en fait, sont pas forcément que pour les ados, comme tu disais, parce qu'ils disent quelque chose vraiment de la société. On peut parler, par exemple, de Mustang, qui est un film de bande de filles, qui dit un truc super fort sur la société. Et aussi, j'ai l'impression, enfin, pour revenir un petit peu sur ce que tu disais par rapport aux teen movies en France, je trouve que c'est un peu le seul genre aussi en France, où on a réussi à complètement se détacher des Américains, où on a vraiment adapté. Enfin, moi, les teen movies français, j'ai l'impression qu'ils sont très français. Quand tu vois LOL ou tu vois des choses comme ça, je me souviens en voyant LOL, moi qui avais à peu près le même âge que le personnage principal, au moment où je l'ai vu, que Lola. Je me suis dit, c'est ça ma vie. Enfin, ça représente bien le collège, le lycée, etc. Je trouve que la France a réussi, même si la production est moindre, à bien s'approprier ce
sauf ce sur genre. Les reçus, c'est dégueulasse, de American Pie. Enfin, il y a eu une époque aussi, à la fin des années 90, où ils avaient tenté de faire des espèces de comédies comme ça. Je me souviens, qu'un truc horrible, je sais plus qui y avait dedans, mais des gens qui n'ont plus envie d'être au casting, je pense. Mais c'est vrai que les teen movies français, dans les années 90, il y avait vraiment, fin des années 90, c'était, il y en avait pas vraiment qui ressortaient. Je sais que moi, on regardait encore La Boum, mais c'était vraiment, LOL est arrivé après, et il y a eu la deuxième moitié des années 90 où il y avait pas grand chose en français sur le teen movie. Mais j'ai peut-être oublié des trucs ou occulté.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
ça me dit rien. Enfin, il y a eu Génial, mes parents divorcent. Après, il y a eu, ouais, il y a eu vraiment LOL qui a fait un raz-de-marée. Mais la deuxième moitié des années 90, moi, j'avais rien d'autre à part les Elle est trop bien, Collège et Attitude, les Scream et tout. En France, il n'y avait pas forcément d'équivalent.
Je pense que c'est lié d'un point de vue aussi industriel, c'est-à-dire en France, il nous faut en compte en général 3, 4, voire 5 ans de décalage avec les États-Unis quand une mode marche et les teen movies, ça...
Toujours
ça,
la traîne. Hein.
Bah, c'est vraiment ça. Il y a eu un peu un moment un peu creux dans la production teen movie qui était très riche du côté des indépendants au début des années 90, puis le cinéma mainstream n'arrivait plus, ne s'intéressait plus à ça. Et finalement, c'est vraiment le milieu des années 90 que ça a repris et du coup, notamment avec l'avènement des chick flicks qui sont vraiment arrivés et on s'est dit ok, on va tous centrer sur ça pendant 2 ou 3 ans. Ah bon, finalement les filles vont vraiment voir ce type de film, comment on fait revenir les mecs, et on les fait vaguement revenir avec Scream, même si en fait beaucoup de spectatrices surtout sont allées voir Scream au début, mm-hmm. et on les fait revenir à partir d'American Pie. Et en France, je pense qu'il y avait vraiment cette idée, ok, on ne sait pas du tout quoi faire du public ado, et comme le public ado depuis le début est pensé comme un public un peu de famille où on y va avec les parents, y a encore aujourd'hui, je trouve qu'il y a un peu une incapacité, autant c'est pas le cas côté série, autant au cinéma, une espèce de frilosité à se dire, il faut vraiment être le plus générationnel possible, parce qu'il faut quand même que le film marche. Là aux États-Unis, on a une petite force de frappe et se dit, effectivement, le public ado va y aller, suffira entre guillemets, on n'a pas besoin de faire venir les parents pour que le film marche. Mmh. Et je pense qu'en France, il y a ce retard industriel, plus cette idée de comment on cible les jeunes. Et les jeunes, en France, ils vont surtout voir des films d'horreur, en fait. Et en fait, on leur réserve ça, les films d'horreur. Et tout le reste, on se dit, bon, ça n'a pas marché. Donc, la plupart des films pour ados un peu sérieux en France vont viser un public un petit peu plus adulte. Et typiquement, Mustang, les ados ne vont pas voir Mustang, à part lycée au cinéma. Ils sont très contents, ils découvrent. Mais ils n'iraient jamais tout seuls, en fait. Il y a vraiment cette impossibilité à faire venir un jeune public sur autre chose que des comédies d'horreur ou des films d'horreur, en plus en général un peu bas de gamme, malheureusement même pas sur les meilleurs.
Et justement, tu parlais de teen chick flick, et du coup on va y venir, parce que j'ai l'impression que c'est un peu, je sais pas vous, mais moi les films qui m'ont formée et les films que c'est les premiers films que j'ai découverts toute seule, c'est-à-dire bah, justement hors de la cellule familiale, les premiers à voilà, 13-14 ans où tu commences à regarder des films avec tes copines et tout, et c'était pas mal un peu une honte d'avouer qu'en fait on s'est construite sur ce genre de films. Donc c'est des films qui, contrairement aux teen movies, donc qu'on dit qu'ils sont assez généraux, enfin qui regroupent plein de sous-genres, ça c'est un sous-genre du teen movie qui s'adresse directement aux jeunes filles et qui fait des assez gros clichés de ce que doit ou peut être une jeune femme à l'adolescence. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur bah, les typologies, qu'est-ce qui se passe au niveau des personnages dans les teen chick flicks et un peu les rites de passage obligés de tous ces films-là. Clara, est-ce que tu as une idée ?
Bah alors moi, j'aurais décrit ce genre. Enfin, en fait, quand je me suis demandé quel film je mettais dans cette catégorie, je me suis demandé quel film je proposerais dans ma tête si j'écrivais une soirée de filles clichés dans un film moi-même. Qu'est-ce que je leur mettrais à la télé à ces filles-là ? Et c'est un peu comme ça que j'ai réfléchi. Et en fait, je me suis rendu compte que déjà, il y avait la nécessité d'avoir des personnages principaux féminins. Et sur le principe, on peut se dire « Ah, super, les filles sont à l'affiche, mais enfin... » pour leur faire faire quoi et leur faire dire quoi. Et puis, la typologie, c'est que l'amour est très, très central, mais aussi un peu la réussite professionnelle. Il y a quelque chose un peu de devenir un peu une femme forte et tout. Donc, c'est des films que je trouve assez ambivalents dans leur description. Je pense à, par exemple, 30 ans sinon rien, c'est ça la traduction en français, où à la fois, elle veut grandir parce qu'elle veut être hyper... une femme qui a du succès et tout. Donc, c'est ce qui lui arrive. Mais en même temps, la vraie trame du film, c'est... une histoire d'amour, un truc de reconquête et tout. Donc je trouve que c'est des films qui sont super ambivalents parce que à la fois ils portent des valeurs très 90s où les femmes ont quand même envie d'être un peu des girl boss d'une certaine manière et en même temps qu'ils les ramènent toujours à des prétentions amoureuses et à une relation amoureuse et à une relation avec un homme surtout évidemment. Donc moi j'aurais défini ça comme ça, mais je pense que vous avez des éléments à apporter.
Moi il y avait une figure de style qui m'a fascinée adolescente et qui, je pense, a laissé un certain impact, c'était dans ces films, c'est l'idée de la transformation, de l'avant-après.
Le makeover.
Voilà, le makeover qui, moi, il me semblait un truc de ouf à 13 ans, tu sais, l'idée d'être quelqu'un d'autre, enfin visible et tout, machin, tu vois. Je me souviens, il y avait un film au début des années 90 avec Tony Danza où, voilà, il se barre un week-end, sa fille subit un makeover de sa sa grande sœur et il la retrouve, elle est transformée, elle a plein de rancards, sa vie est différente et tout. Et c'est cette idée de changer pour être enfin visible qui a été un peu le message un peu sous-traité.
Oui, tu dois changer ton apparence.
Voilà, change ton apparence.
Ta personnalité aussi pour rentrer dans le moule.
Exactement.
Andy Sachs dans Le Diable s'habille en Prada qui devient une personne totalement différente. Ça.
Exactement. Et même si enfin il y a ce petit message genre non mais il fallait être soi-même, ouais mon cul en fait, ton film tu l'as fait depuis sur 1h30 sur comment valait mieux changer, comment l'intello de la classe, bah si tu l'enlèves ses lunettes et ben en fait enfin c'est une meuf super et tout, bah elle était super avant en fait, elle portait juste des lunettes, mais ça te crée un espèce de mécanisme de machin, à un moment ma vie peut changer, ça va passer par des transformations physiques, sociales, en étant quelqu'un d'autre quoi, et ça a laissé je pense des stigmates, en tout cas à ma génération, enfin moi voilà je suis à la fin des années 80 aussi, de makeover, enfin qui a été aussi prôné par les magazines féminins et tout, de genre tu peux changer ta vie, il suffit juste d'acheter le bon mascara et de et voilà, enfin surtout Elle est trop bien ou des films comme ça qui ont laissé un peu cette image là qui était pas forcément super quoi, enfin j'ai trouvé.
Et ce qui est intéressant sur les makeovers, c'est aussi que en fait dans les teen movies pour mec entre guillemets, où c'est un jeune garçon le personnage principal, quand il va subir un makeover, c'est lui qui va le choisir, c'est lui qui va décider de devenir rebelle et tout, enfin pense à Christine notamment, et en fait les filles c'est souvent la pression sociale qui fait que elles doivent changer, on leur donne des nouveaux habits parfois presque de force, donc voilà, c'est d'une violence assez ouf. Et en même temps, quand j'étais plus jeune, je regardais ça, j'étais là, wow, ça a l'air trop bien de pouvoir se transformer.
Mais moi, je me disais vraiment l'inverse. Enfin, vraiment, ça,
ah ouais,
et c'est pour ça que je disais Never Been Kissed, College Attitude, c'est vraiment le cauchemar de ma jeunesse. Mais absolument, en fait, tous les chick flicks sont les cauchemars de ma jeunesse. Et du coup, je sentais la même pression hors écran en tant que jeune fille, parce que j'étais pas du tout dans les normes attendues de la féminité, enfin clairement pas, puis j'étais pas en plus dans les normes attendues je pense de l'hétéronormativité, donc j'étais loin du compte sur ces questions-là, et au contraire pour moi les films représentaient vraiment tout mon cauchemar, et vraiment cette idée que pour moi l'idéologie centrale des chick flicks, c'est bon de effectivement s'adresser à des filles, donc pour moi très clairement je me disais, alors si ça c'est les goûts des jeunes filles, clairement moi, je ne me retrouve pas du tout dans ce cinéma-là, donc je détestais. Alors, c'était obligatoire tous les samedis quand je voyais mes copines, ce qui était vraiment un enfer pour moi.
Ouais.
Et l'autre chose, c'est justement cette question de l'apprentissage. L'apprentissage de la féminité qui passe par le relooking ou d'autres choses. Et pour moi, du coup, ouais, c'était vraiment l'enfer sur Terre de regarder ce type de film, de me dire, OK, il faut vraiment que je réussisse à faire la même chose. Alors, je n'avais pas du tout envie, même si je me tapais le relooking par mes copines qui s'inspiraient des films. Je disais, mais vraiment l'enfer sur Terre.
Okay.
Vivement que tous ces films disparaissent et vite, ou que je grandisse vite. Là, vraiment, c'était un enfer. Et
mais
je t'arrivais
à le manifester en étant ado, où il y avait une sorte de pression sociale aussi.
Il y avait une grosse pression dans ma tête. Je me disais juste vivement que ça passe. Je les laisse se relooker comme dans les films et les séries. Elles étaient très contentes. Et moi, je me disais juste vraiment qu'on m'oublie, en fait. Et je trouve que les films, encore aujourd'hui, incarnent aussi cette double pression, et y compris du coup hors écran, de à la fois c'est fun et en même temps toute la violence derrière. C'est il faut vraiment, si vous voulez être populaire, ressembler à ça.
Rentrer dans une norme de ouf.
Et ça dit quelque chose, je trouve, de la production. C'est-à-dire que la production, elle démarre effectivement, comme tu disais, Clara, essentiellement en plus avec des personnages masculins très centraux. Et ça a globalement changé à partir des films d'horreur où effectivement, là, il y avait plus de filles qui étaient victimes.
Oui,
et il faut des gens pour avoir peur et les garçons n'ont pas peur.
c'est ça.
Il fallait des filles.
Et en fait, du coup, tout le genre est concentré sur l'apprentissage de la masculinité pour les jeunes garçons, en fait, pendant très longtemps. Et puis après, le genre fait un peu flop parce que, voilà, dans les années 80, en plus, John Hughes arrive. Donc, même s'il y a des garçons, tout le monde est hyper concentré sur le fait que les garçons sont peut-être un peu trop sensibles, donc peut-être un peu trop féminins. Et en fait, tous les films sont plutôt appréciés par un public féminin, alors que c'est principalement des héros masculins dedans. Mmh. Et du coup, les chick flicks débarquent en se disant, OK, qu'est-ce qu'on fait? Comment on adapte un film à un public? Et donc, je veux dire, c'est ce que tu disais, comment on réfléchit? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on vend pour un public féminin? Bon, on va leur vendre de la féminité. Donc, pour des jeunes filles qui sont, ce qui était vraiment mon cas, pas dans ces attentes-là, en fait, effectivement, je préférais consommer des films pour un public finalement masculin, et je me retrouvais bien plus dans Scream que dans tous les American Pie ou même les Elle est trop bien, etc. Enfin, c'était vraiment l'enfer sur Terre pour moi. En plus, Elle est
ça
trop bien.
Je n'aurais pas du tout entendu à l'adolescence. Je t'aurais gavé avec mes DVD en location.
Ah, c'était vraiment. Ouais. Et vraiment, je pense que c'est cette idée-là, finalement, que dans les productions pour les garçons, alors il y a tout un tas de productions qui sont centrées sur l'apprentissage de la masculinité, qu'on retrouve absolument dans tous les films, mais certains films sont vraiment centrés sur ça. Or, toutes les productions à destination de jeunes filles n'ont qu'un seul thème central, l'apprentissage de la féminité, qui se diversifie après par soit le make-over ou pas, ou le rapport à la sexualité. Mais en fait, tout est centré sur l'apprentissage d'être une femme ou d'être féminine, et vraiment, du coup, ça dit aussi quelque chose de la production, c'est-à-dire les femmes, et c'est la même chose dans les autres genres, que ce soit les comédies romantiques, enfin tous les genres à destination des femmes en général. Il y a cette idée que, ah, en fait, on voudrait peut-être consommer que ça, et je trouve que c'est intéressant comment on diversifie cette idée qu'aujourd'hui le public féminin, et on peut le prendre avec Lady Bird, à la fois, oui, la jeune fille, elle redéfinit un certain nombre de codes très féminins, en même temps, elle est quand même relativement très féminine, bon, elle porte quand même un plâtre rose, au cas où on n'est pas compris. Mais je trouve ça intéressant de voir comment c'est dedans, sans être du tout le thème central, et qu'effectivement, on peut se retrouver dans d'autres choses. Mmh. Et effectivement, je trouve ça moins impressionnant aujourd'hui que moi, à l'époque. Enfin, c'était vraiment... Et d'où le fait que pendant longtemps, j'ai détesté ce genre-là aussi. Mmh. Et quand j'ai dû écrire le bouquin, j'étais là, bon, je vais le faire... pour les études, pas pour l'argent, mais vraiment parce que je me suis dit, ok, c'est vraiment aussi, je vais essayer de comprendre pourquoi j'ai détesté ce genre toute la pression et des logiques derrière. Et en fait, effectivement, je me suis rendu compte que, comme Virgin Suicide ou plein d'autres films que je rangeais pas là-dedans parce qu'ils me faisaient pas de mal aussi, je me suis dit, ok, en fait, c'est juste la même chose. Et j'ai juste été abreuvée dans les mauvaises productions qui.
Je réagis juste parce que moi, c'est pas du tout ma génération. Moi, j'ai que 21 ans. Donc, tous ces films-là, c'est des films que moi j'ai pas vu au cinéma. Enfin voilà, moi mes films de cinéma c'est les Lady Bird, c'est les Booksmart, c'est ces films là et moi du coup j'ai pas du tout grandi en regardant ce genre de film. Le seul film qui est sorti quand j'avais à peu près l'âge de le voir, c'était LOL, qui m'a traumatisée parce qu'en fait c'était pas du tout ma vie, parce que moi je me reconnaissais pas dans cette fille, pas dans ses rapports aux garçons, aux autres filles, etc. Donc pendant très longtemps j'ai complètement refusé le teen movie. Mais par contre ma grande passion c'était les comédies romantiques, donc c'était vraiment, on m'a appris les mêmes choses mais juste avec un autre genre. Et quelque chose dont je me suis rendu compte, c'est que c'est des films qui sont tous hyper prescripteurs, je pense que c'est le bon mot, de comment les filles doivent être, mais aussi de quel type de garçon elles doivent trouver beau. Et je me suis vraiment rendu compte en parlant avec des adultes, par exemple, qui ont vu La Boom au cinéma, que vraiment les acteurs qui sont choisis, ils incarnent genre le jeune premier de chaque époque. Et c'est une question qui me fait vachement rire parce que c'est vraiment des garçons clichés. Et donc aujourd'hui, la mode, c'est d'être amoureuse d'un Timothée Chalamet. Oui. Mais il y a 20 ans, c'était d'être amoureuse d'un autre type de garçon. Et je trouve que les teen movies sont intéressants là-dedans. C'est que vraiment, ils régissent les codes physiques de ce que le couple idéal doit être. Et c'est quoi le Barbie et la Ken? Enfin non, plutôt, pardon d'avoir complètement disrupté le genre. La Barbie et le Ken de chaque époque pour les 16-18 ans. Quoi. Ça me fait oui, réfléchir de penser à ça. Ouais.
Le stéréotype, de toute façon, c'est un des piliers du teen movie. On a aussi des typologies de personnages. On a la peste, on a l'outsider. On connaît toutes les plus grandes pestes des teen movies, et qu'on les ait détestées.
Regina
George, bisous. mais du coup, voilà, la question, c'est à qui ça s'adresse, ces teen movies-là? J'ai envie de dire, ça s'adresse à des jeunes femmes blanches. Surtout, il y a quand même, c'est des castings très, très blancs, très hétéronormés. Enfin, voilà, ça commence tout juste à changer un peu, mais c'est quand même une adresse à des femmes privilégiées et des jeunes femmes, et qu'on essaie d'élever dans une sorte de stéréotype de genre. On voit plein de teen movies, notamment Mean Girls, où le rose est prépondérant. C'est vraiment... et en même temps, il y a une forme de libération dans les stéréotypes, par exemple, de la peste, où la peste, en fait, est toute puissante, et il y a une sorte de domination féminine qui est super cruelle et qui, en fait, est souvent... Enfin, la puissance, etc., c'est des attributs qui sont souvent masculins. dans les teen movies, les femmes sont quand même puissantes. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais...
Ouais. Moi, je voulais revenir sur la masculinité, la féminité, etc. Je trouve que la grande force quand même des teen movies, c'est que le masculin, enfin en tout cas la représentation des jeunes garçons, est beaucoup plus diverse que dans le reste du cinéma, en tout cas aux États-Unis. Les débuts des années 90, même toutes les années 80, début des années 90, c'est vraiment l'hyperpuissance viriliste. C'est vraiment tous les Stallone, Schwarzenegger et consorts. Et quand les teen movies débarquent et dans les années 80 et sont après redéfinis dans les années 90, il y a un pouvoir immense qui est accordé aux jeunes garçons qui ne sont pas normés, justement.
C'est clair.
Pas dans la norme du masculin. Enfin, vraiment, moi, je me rappelle, effectivement, les teen movies nous disaient quoi d'aimer, dans les fin 90, début années 2000, des Michael Cera, des Pattinson, à qui on a quand même dû dessiner des abdos, parce qu'il n'avait pas d'abdos. C'est on lui dessinait des abdos sur Twilight.
Ah ouais,
et je trouve,
ça, ouais,
vraiment. Et en fait, je trouve que ce mythe de l'hypervirilité, en tout cas, d'un point de vue de critères purement physique, a totalement été dynamité dans les teen movies, même si du coup ça ne fait que mieux cacher le côté masculin hyper toxique dans les films. Alors que du coup, pour rebondir sur la féminité, le grand problème encore aujourd'hui quand même des teen movies, c'est de proposer exactement le même modèle de la féminité qui n'a pas bougé. Donc effectivement, une jeune fille blanche, si possible privilégiée, relativement en tout cas dans un environnement intellectuel favorable, même si elles peuvent être un peu bébêtes, et elles sont toutes effectivement très très blanches.
Ouais.
Et ça, c'est vrai que moi, quand j'étais une jeune fille, à la fois, oui, je venais d'un milieu qui était quand même pas trop défavorisé. J'étais carrément totalement blanche, pas très hétéro, mais bon, je traînais que là-dedans aussi. Et vraiment, en grandissant, je me suis dit, le vrai souci, c'est il n'y a pas de diversité en termes d'identification de genre, contrairement aux jeunes garçons. Alors, c'est très blanc chez les garçons, mais au moins, ça a l'avantage de dire que quand on est un peu rond, un peu chubby, et on peut quand même réussir.
Le mec chubby, c'est souvent quand même le
copain.
L'ami.
Mais il existe.
Il existe, c'est clair, mais c'est comme la meilleure copine noire. Elle est noire, mais elle est que la meilleure copine. Et je pense que c'est là où les films d'ado peuvent à la fois être assez disruptifs et en même temps revenir au même cliché. C'est que par exemple, on dit qu'il y a pas mal de personnages dans les films d'ado qui sont sensibles. Moi, je pense le mec dans La Boum, c'est quand même plutôt. Il est un peu sensible, un peu fleur bleue. Même dans J'ai bonne raison de te larguer, dans même Breakfast Club et tout. Il y a des personnages de garçons qui sont un peu cultivés, qui aiment des choses sensibles. Dans Le Cercle des Poètes Disparus, c'est pareil, c'est des mecs qui sont dans une espèce d'homo-érotisme, où ils lisent de la poésie et tout. Donc, à la fois, il y a une redéfinition du code du genre, mais qui à la fois, franchement, masque juste une masculinité qui est pas plus douce ou vraiment plus inclusive. Et je pense que c'est pareil avec les femmes. C'est-à-dire, oui, en fait, Regina George, elle incarne genre une espèce de pouvoir féminin, mais qui finalement ne peut s'incarner que dans des clichés hyper toxiques
et
d'une force féminine qui est juste là pour écraser les autres femmes, prendre le pouvoir pour le plaisir des garçons et se battre en fait pour simplement être la reine du lycée, pour le regard masculin. Donc en fait, je pense que le teen movie a vraiment une possibilité de vraiment, vraiment casser les codes du genre au sens genre vraiment. Mais en même temps, est-ce que vraiment il y a une efficacité du projet si de toute façon on reste on donne aux filles la possibilité d'être puissantes que dans certains codes qui sont hyper misogyne.
Puis on dit que ça s'éloigne des stéréotypes. C'était quand même aussi le stéréotype du mec, la mèche dans le vent en train de lire des poèmes, justement, qui a un autre aussi stéréotype du romantique. Enfin, dans le teen movie, il y a aussi le meilleur ami, souvent, qui est fou amoureux de l'héroïne qui voit rien. Et c'est aussi un stéréotype en lui-même, un petit peu frêle, un petit peu sensible, qui est évidemment pas le gars populaire, le quarterback du lycée et tout, mais qui est aussi toujours un peu dans le même moule, en tout cas niveau caractère et niveau personnalité, quoi.
Mais je trouve quand même que sur la question du rapport au pouvoir féminin, il faut le replacer d'un point de vue historique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, j'en parlais du coup avec une de mes élèves qui vient de découvrir Clueless et qui me disait ah ouais, enfin, on s'emballe un petit peu pour Clueless, c'est quand même hyper problématique. Je dis oui, alors revu aujourd'hui, effectivement, c'est hyper problématique. Et en même temps, à l'époque, en 95, effectivement, toutes les où c'était très visible sur Mean Girls, sous les personnages de garces qui sont vraiment dans l'hyper-pouvoir, mais en même temps, il n'y avait pas grand-chose à ça.
Ouais,
il y avait quoi ? Il y avait les rappeuses dans les clips, c'était génial. Bon, en tant que jeune fille blanche, on se disait, allez, je sens pas que j'ai la même assurance et le même pouvoir que les rappeuses dans les clips. Donc oui, je préfère m'identifier. Alors moi, clairement, c'était pas mon cas, mais dans les Regina et consorts. Mais je pense que cette question de l'hyper-pouvoir féminin à l'époque, il n'y avait pas d'équivalent face à ça. Et donc, à la fois, ça faisait hyper peur à tout le monde. D'ailleurs, c'était souvent plutôt produit par des femmes. Hein. Enfin, là, on parle de Mean Girls, Clueless, mm-hmm. quand même des films qui sont réalisés et écrits par ouais. des femmes. Donc, enfin, ça va. Mais je trouve que cette question de l'hyper-pouvoir, à la fois, effectivement, on est re dans des configurations hyper virilistes de pouvoir, on s'écrase, on est dans la rivalité, ce qui est un peu dommage en plus parce que du coup, il y a, en tout cas, à l'époque, il y avait peu de films sur la question de sororité, alors que c'était central pour tous les films masculins.
Ouais,
c'était la bande de potes, et jusqu'au bout, on se serre les coudes. Mmh. Et d'ailleurs, on devient masculin en restant potes jusqu'au bout. Là où les femmes, il fallait bien comprendre que non, surtout pas. Il ne faut pas trop perdre de temps. Et vite, effectivement, se rendre belle aux yeux d'un garçon.
Et surtout, il n'y avait qu'une seule place pour les femmes, comme si, en fait... Les femmes ne pouvaient pas exister en groupe, mais seule une arrivera en haut, quoi. Donc, du coup, il fallait un peu se pousser les autres pour.
Je me permets de rebondir parce que on dit qu'il y a l'impression que c'est des clichés qui sont repris dans les teen movies qui sont ancestraux. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a pas mal de teen movies qui sont des réécritures de classiques du théâtre. Par exemple, 10 bonnes raisons de te larguer, c'est une réécriture de La Mégère apprivoisée de Shakespeare. Et que Clueless, il me semble que c'est inspiré de Emma de Jane Austen. Donc c'est quand même toujours intéressant de voir que on va, pour raconter des histoires hyper 90s, prendre vraiment des histoires qui ont été écrites 4 siècles plus tôt. Et que donc, qu'est-ce que ça veut dire de nous et de nos histoires? Ça veut dire que pour les femmes, l'idée d'exister peut se faire que si elles sont soit une mégère apprivoisée, donc elles se rebellent, mais finalement... elle finit quand même avec le mec, ou alors sinon, dans Emma, c'est ça, c'est la peste, mais qui veut faire du bien, et que donc ce sont des clichés qui sont là pour les femmes, pour que les femmes existent, certes, dans la littérature, mais uniquement à travers les mêmes clichés, et donc, puisqu'on peut le réécrire à la fin du XXe siècle, c'est que finalement, la réalité, elle a pas tant changé que ça, quoi.
Mais on va voir si c'est possible que ça change, parce que, alors cette année, donc on parlait de Greta Gerwig qui a été nommée aux Oscars en 2018 pour Lady Bird, et puis cette année j'ai couvert le festival du cinéma américain, du film américain de Deauville pour Mademoiselle.
Mais j'y étais aussi.
Tu étais.
C'est fou.
Et en fait, je sais pas toi, mais moi j'étais assez surprise du nombre de teen movies qu'il y avait dans la sélection officielle. Donc il y avait Sophie Jones de Jesse Barr, mm-hmm. il y avait Quadrillionaire de Miranda July, mm-hmm. Que perso j'ai adoré. Oh, il y a aussi. Eu Shiva Baby d'Emma Seligman,
qui a été mon préféré de
génial.
Tout le festival.
Franchement, si je sais pas s'ils ont des dates de sortie en France, mais il me semble que Quadrillionaire si, mais vraiment aller voir ces trois films, moi c'était vraiment trois coups de cœur de teen movie, en tout cas à Deauville. Mm-hmm. Et du coup, on a l'impression que ces sélections là en sélection officielle ou aux Oscars, ça retranscrit une sorte de comment dire, appréciation ou légitimation par les pairs du cinéma, de la culture. Et ça n'a pas toujours été le cas. Alors, à votre avis, pourquoi aujourd'hui c'est un peu plus légitime le teen movie qu'à l'époque de Clueless et Mean Girls, où vraiment ça n'aurait jamais été nommé aux Oscars? Ou
je pense qu'on prend aussi actuellement plus la jeunesse au sérieux, quoi. Il y a un moment où je pense que dans les, enfin voilà, on a décrit les teenagers américains dans les années 60, enfin c'était surtout des consommateurs qui en plus avaient l'argent des parents, donc aller au cinéma, voilà, aux diners et tout, pouvaient consommer. Là on commence à s'apercevoir que c'est des personnes en fait, et donc de légitimer un petit peu avec des grandes figures, je pense à Greta Thunberg ou des gens comme ça, où on voit que on peut avoir 16 ans et avoir des réflexions. Et donc je pense que
vient aussi avec les réseaux sociaux, où en fait les jeunes d'aujourd'hui sont surinformés et du coup obtiennent une légitimité, et on a accès à eux directement via les réseaux sociaux, et du coup les films ça transparaît, j'ai l'impression.
Ce que tu dis par rapport aux réseaux sociaux, je pense que aussi il y a la culture fan qui a, enfin, avec les réseaux sociaux, elle a pu atteindre son maximum. Et du coup, je pense qu'il y a des trucs de cristallisation de fans autour de telle actrice, justement, qui est jeune, ou de tel jeune premier du cinéma, ou même, justement, de projets qui vraiment, les fans soutiennent à fond. Moi, j'ai vu Booksmart. Vraiment, tout le monde dans ma tweetline avait une photo de profil Booksmart, et vraiment, enfin, ça devient des objets de pop culture qu'on s'approprie, et on se dit, ah, ça, c'est le reflet de ma génération. Et donc, je pense que les réseaux sociaux portent aussi énormément ces films, leur donnent un succès, une visibilité que peut-être la presse en France ne leur donnerait pas autrement, et que donc, c'est des canaux de publicité, de communication sur ces films qui leur donnent une visibilité, une importance, moi, que je pense qu'ils méritent, mais qui surtout leur permet d'exister plus que ce qu'ils auraient pu le faire autrement, quoi.
Après, moi, sur la question des fans, du coup, j'ai pas le même âge, mais moi, j'ai vraiment grandi avec l'avènement d'Internet. Du coup, les forums de fans, en vrai, ça existe depuis très longtemps. Enfin, moi, j'ai vraiment l'impression que ça s'est cristallisé justement au milieu des années 90, fin des années 90, et ça n'a pas du tout désempli. C'est juste qu'en France, ça a pris beaucoup de temps à arriver.
Je pense.
Et là, effectivement, que Deauville s'y mette, c'est bien, mais en même temps, moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait plus ou moins Teen Movie sur les sélections des festivals américains. Sundance, on a toujours eu, et c'est juste que les Français n'allaient jamais acheter les films pour les distribuer.
Oui, c'est ça aussi. C'est que c'est dur de distribuer ce genre de
teen
movie. Non,
on a un marché qui
n'est
pas très accueillant pour le teen movie.
C'est ça. Et ça, je trouve que ça commence à changer d'un point de vue médiatique en France. Enfin, moi, je me rappelle vraiment quand j'ai commencé à bosser sur le bouquin qui est sorti du coup en 2011. Bon, on n'avait pas du tout de climat favorable d'un point de vue médiatique. D'ailleurs, j'ai beaucoup plus été interviewée derrière, en fait, à 2, 3, 4 ans de retard par rapport à la sortie du livre, le temps que... je pense aussi vraiment que les séries ont un peu explosé. Et en fait, j'ai surtout l'impression qu'en France, on s'est un peu réveillé avec l'explosion des séries et les réseaux sociaux tels qu'ils sont pensés aujourd'hui. Mm-hmm. Et en même temps, à l'époque d'Internet, moi, je traînais vraiment beaucoup sur tous les forums de fans, etc. C'était déjà hyper le cas. Aux États-Unis, du coup, ça fait quand même à la fois très longtemps que c'est un genre qui est extrêmement populaire. Et en même temps, en termes de légitimité vraiment culturelle, le genre est légitime au sens où il fait beaucoup d'argent. Et qu'aux États-Unis aussi, la légitimité, elle dépend de ça.
Le pôle commercial, ça, il n'y a pas de problème. Oui. Mais enfin, au pôle pur de la culture, ça a quand même mis du temps à...
John Hughes, dans les années 80, c'est l'hyper-dieu des teen movies. Tout le monde se dit, waouh, finalement, c'est un genre hyper sérieux. C'est la même période où il y a le début des études féministes, à la fin des années 70. Et quand Halloween sort, tout le monde se dit, waouh, mais en fait, les films d'horreur peuvent être ultra-féministes. Et en fait, on peut dire vraiment quelque chose. Pour moi, c'est un discours qui existe depuis très, très longtemps aux États-Unis. Et je pense que c'est très lié à ça. Et là, par exemple, le fait que le female gaze, alors que c'est une notion qui a 40 ans aux États-Unis, est un peu à la mode en France en ce moment, ou le male gaze, etc. En fait, on se rend compte effectivement que le genre n'est pas si idiot et qu'il y a plein de choses à partir de ce genre-là sur lesquelles on peut repartir. Et je remercie absolument tous les acteurs médiatiques de permettre un peu de pouvoir parler de tout ça parce que c'est hyper riche. Et en même temps, voilà, j'ai pas l'impression que... T'as l'impression que ça fait des années. Enfin, c'est juste qu'en France, on a la traîne un petit peu tout. Et...
Moi, je pense là, par exemple, au Ozon qui est sorti cet été, été 85, qui entre, selon moi, dans la catégorie du teen movie, puisque c'est des adolescents. Et en fait, ce film, il s'adresse à qui? En fait, il s'adresse surtout, je trouve, à des parents qui ont regardé la boom dans les années 80 et qui ont envie d'un bon shot de nostalgie parce que le Covid, ça nous pèse. Et que moi, je suis allée le voir parce que j'adore Ozon et que donc j'avais envie de voir le dernier Ozon. Mais dans la salle de l'avant-première, il n'y avait que des personnes de genre 45 ans. Et je me suis dit, donc en fait, en France, pour produire un teen movie, déjà, il faut s'appeler François Ozon, sortir de la famille, c'est avoir une carrière derrière soi. Donc, c'est pas son premier film. Et en plus de ça, il faut venir utiliser des codes qui vont quand même venir surtout draguer un public de nostalgique plus qu'un public d'adolescents à qui le film, sur le papier, aurait pu s'adresser. Et donc, je trouve ça intéressant de voir que même si on sait par les États-Unis et par d'autres choses que c'est des films qui marchent et qui font de l'argent, et que quand on fait de l'appel aux ados, les ados vont au cinéma, mais l'incapacité à faire confiance à ce public-là, d'aller voir les films qui lui sont destinés, en France, elle m'interroge quand même pas mal, quoi. Enfin, je me l'explique pas vraiment.
Ce que je trouve intéressant sur cette question de la légitimité ou l'illégitimité, tout est lié vraiment structurellement à l'âge du public cible. Voilà, c'est un jeune public. Industriellement et de façon générale, ce que tu disais sur aussi la méfiance des adultes sur la jeunesse, de façon générale, le jeune public, c'est un public à contrôler. C'est-à-dire qu'il faut faire gaffe aux interdictions. En plus, c'est un genre qui démarre avec des comédies qui sont quand même... Enfin, après les mélodrames de James Dean, etc., avec des comédies relativement très graveleuses, avec des films d'horreur qui sont quand même hyper graphiques et explicites. Donc c'est un genre qui rapidement, mais même dès les années 50, avec tous les James Dean, où c'était « Attention, la jeunesse va vouloir devenir des délinquants, ils vont
faire
vraiment foutre le bordel
voiture
à l'école. » Non, mais c'est vraiment ça. En plus, James Dean meurt lamentablement en voiture
super
aussi.
Super la propagande
c'est
pour bien contrôler les jeunes. Si vous faites comme dans le cinéma,
mais
vous
c'est
allez vraiment
ça,
mourir.
Ouais. C'est vraiment lié à cette question de propagande, de censure, de comment on va contrôler le public et le fait qu'on se dise « attention, c'est quand même quelque chose qu'il faut cadrer. En fait, tout le genre est lié sur quand même un regard d'adulte. Qui produit les teen movies? Qui les écrit? Qui les réalise? Qui joue dedans? Mais qui sont les acteurs? Enfin, ce n'est pas la plupart. Même si ça change aujourd'hui. Enfin, moi, j'ai grandi avec les séries où les acteurs, ils ont 23 ans. Ils se sont dit, chouette, il a l'air.
Dawson, il a 47 ans, en fait. Dawson,
il a toujours 47 ans, je pense.
Ouais, il a toujours 47 ans. C'était ouf.
Et vraiment, tout ce truc est hyper centré sur ça. C'est qu'effectivement, qu'est-ce que les adultes aiment? Penser ou s'imaginer des ados. Et alors, moi, je trouve que la réception autour d'Euphoria, et c'était la même avec Larry Clark, de « Ah, c'est génial, mais les ados doivent être comme ça. » Et vraiment, je me le dis encore aujourd'hui, mais enfin, pour des ados qui sont loin de la représentation des adolescents dans Euphoria, ils doivent avoir hyper peur ou se dire « Ah, mais alors vraiment, je suis vraiment hyper prout-prout dans ma petite ville très tranquille. » Et en même temps, moi, quand j'étais jeune, je me disais genre « Heureusement, en fait, que je leur ressemble pas. Ça me fait hyper peur d'être dans un Larry Clark. » Et je trouve que tout ce truc de qu'est-ce qui est légitime ou pas, par exemple, sur un Greta Gerwig, sur Lady Bird, voilà, moi, j'ai déjà discuté avec d'autres amis qui sont pas à fond sur les teen movies, me disent « C'est sympa, c'est mignon. » Ben oui, mais quand t'es ado ou quand t'es encore jeune adulte...
Ta vie n'est pas folle, ta vie est plutôt plate.
L'absence de spectaculaire est justement d'autant plus spectaculaire que tu te dis, la vie adolescente, c'est quand même ça. On se fait chier souvent, même si on est persuadé qu'on vit les plus grandes aventures du monde, c'est pas clair. Trop le cas. Et ça, c'est un vrai souci, c'est-à-dire qu'est-ce que les adultes ont envie de voir ou s'imaginent que les ados sont. Et je trouve que même sur toute la représentation des jeunes filles aujourd'hui, c'est vraiment encore... vraiment impulsé par des adultes qui s'imaginent que les jeunes filles, elles pensent à ci ou pas à ça.
Mais justement, du coup, la légitimité culturelle, est-ce qu'elle vient pas aussi du fait qu'aujourd'hui, on met en avant aussi des réalisatrices? Enfin, on est vraiment dans cette dynamique-là. Et donc, les premiers films des réalisatrices, ça, c'est souvent, enfin, en tout cas, de ce que j'ai pu voir, souvent, c'est des teen movies. Puisque finalement, en fait, c'est leur première expérience un peu et elles ont un vrai regard là-dessus. Et ça a commencé avec Sofia Coppola, mais ça continue aujourd'hui avec Greta Gerwig.
Il y en a plein d'autres avant. Même si j'adore Sofia Coppola...
Je pense que aussi, ce qui est assez explicite, c'est qu'on pense qu'un jeune réalisateur, quand c'est un garçon, même à 25 ans, bon, il a à peu près la crédibilité pour parler de tout, surtout de ce qui n'est pas sa vie à lui, mais d'aller donner un avis.
Surtout les super-héros. Bah, sur ça, la il vie a des autres. Beaucoup de choses à dire.
Mais par contre, on envoie quand même le message à une jeune femme réalisatrice que c'est mieux si vraiment, vraiment, elle s'en tient à ce qu'elle connaît, et donc uniquement la vie d'adolescente. Et je pense que même si, moi, je suis super contente qu'il y ait plein de réalisatrices qui fassent des teen movies, et je suis trop contente que Olivia Wilde, son premier film, c'était un teen movie et pareil pour Greta Gerwig, mais je pense quand même que ça veut dire quelque chose de ce qu'on envoie aux femmes, de ce qu'elles sont capables de raconter, c'est-à-dire de s'en tenir à ce qu'elles connaissent bien, et surtout de bien, bien délégitimer des choses qu'elles connaissent peut-être très bien, mais c'est pas trop bon pour une fille de s'y connaître bien dans ce domaine-là, donc c'est quand même mieux de vraiment, vraiment parler d'adolescence, de ses premières règles et de son premier petit copain, parce que bon, à 25 ans, quand on est une femme, on connaît pas beaucoup plus de choses. Et je pense que ça, enfin, c'est quand même assez parlant, quoi, parce que des premiers films de mecs, il y en a sur tous les sujets possibles.
Et pour finir, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur les séries. On les a mentionnées tout au long de cet épisode sur les teen movies, parce qu'en fait, on sent qu'il y a un vrai enjeu aujourd'hui sur les séries, puisque, comme tu disais, Célia, je crois que, en fait, les films, les teen movies passent devant un comité de censure, etc., pour savoir s'ils vont être, classé PG-13 ou quoi que ce soit. Les séries, pas du tout. En plus, elles sont drop maintenant grâce à des plateformes comme Netflix directement en entier. Et donc, en fait, je trouve que même si on voit Euphoria qui est un peu le Skins des années, années 2020, il y a quand même des séries qui vont super loin dans la représentation des jeunes filles, de leur sexualité. On voit par exemple Sex Education, 13 Reasons Why. Et en fait, je trouve que limite, est-ce que le teen movie va se transformer en série? Parce qu'il y a tellement de choses à dire sur l'adolescence qu'on peut développer davantage les personnages là-dedans. Et créer des trucs avec un peu plus d'aspérité que les teen movies qui sortent aujourd'hui sur Netflix, enfin The Kissing Booth, etc., quand même des trucs assez lisses, assez commerciaux.
Puis c'est imbuvable, c'est-à-dire moi j'adore Kissing les films Booth. Où il se passe rien, mais c'est il faut pas, enfin surtout quand on voit que il y a l'acteur qui joue Nate Jacobs dans Euphoria, qui joue aussi le male interest dans The Kissing Booth, c'est vraiment deux visions
de l'adolescence quand même bien
faut, mais c'est bizarre, faut manger ça... après un moment donné faut, ouais. Voilà, faut faire ouais. Du film quoi.
Mais il le dit presque en interview hein. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi peu motivé à faire des interviews que les interviews de Jacob Elordi.
Ces interviews donnent envie de mourir.
Je sais pas.
Ah, il dit je n'ai pas vu le film, j'ai le droit de le dire ouais. Ou pas. Non, et vite
du mais coup. C'est fou, mais c'est un rapport hein. Moi j'ai un rapport passion-répulsion pour genre Kissing Booth ou même Twilight en fait, qui est des trucs que je m'inflige presque de sadisme, tu vois. Et alors, mais je les ai regardés et je les ai lus même, hein, Twilight, je sais même pas pourquoi d'ailleurs, mais jusqu'au bout, alors que je sais la fin et tout, mais ouais, je sais pas, j'ai pas d'explication là-dessus.
Mais ouais, du coup, les séries, est-ce que c'est.
Mais je pense que ça, ouais, pour les séries, je pense que ça vient de super longtemps. Enfin, je veux dire, à mon époque, il y avait Arc les cœurs à vif, enfin, des films avec l'adolescent.
D'ailleurs, ils font pas un reboot de
si,
ça,
si, ils font ça. Un reboot, ouais. C'est ma passion.
C'est le point info.
Voilà. Non, mais que la figure de l'adolescent, elle a souvent été très bien traitée aussi par la série. Enfin, il y avait Arnold et Willy. Enfin, il y avait plein de personnages ados. Enfin, le prince de Bel-Air, des choses comme ça. Enfin, évidemment, pas vraiment porté sur la femme ou la jeune adolescente, mais qui donnait un petit peu plus de relief, en tout cas, à cette période-là de la vie. Moi, par contre, là, je suis en train de mater parce que je m'ennuie le premier volet de Gossip Girl. Et pareil, je sais pas. Je sais pas pourquoi.
Faut pas se faire mal.
Non, je sais
alors
pas.
Que Dawson va passer sur Netflix. Il faut regarder Dawson sur Netflix, par contre.
Ah ouais, mais parce que
malgré tout ce qui reste de problématique, il faut vraiment le regarder. Je le dis pour toutes les jeunes générations, il faut le faire.
Pour aussi avancer sur les séries, moi j'ai fait une vidéo sur. Enfin, moi c'était très orienté sur le sexe et la représentation de la sexualité dans Euphoria, justement. Si on fait une comparaison avec Sex Education, par exemple, qui elle est écrite et réalisée par des femmes, je trouve que ça montre bien qu'on peut totalement centrer une série sur la sexualité des adolescents sans aller faire du choc sur le choc. Et vraiment devenir brusquer ouais. Ton. Parce que vraiment, Euphoria, c'est ça, hein, c'est devenir brusquer ton spectateur, mais avec des jolies lumières quand même.
Mais très jolies lumières. Mais brusquer, pas brusquer. Enfin, c'est vraiment les.
C'est vraiment le choc effect, quoi. Tu vas te retrouver
devant
une scène.
Moi, je trouve que c'est vraiment une représentation attendue, quoi. T'imagines, enfin, voilà, on l'a dit, on l'a vu avec Skins, on l'a vu avec Larry Clark. Enfin, je veux dire, on connaît ce truc par cœur.
Et encore, Skins avait ce truc un peu crado, genre filmé avec une espèce de caméra à la main.
Skins, tu trouvais ça plus crado que.
Mais en fait,
Euphoria, c'est 100 fois plus crado que Skins.
Je pense que c'est plus crado dans le sens où Euphoria montre une sexualité beaucoup, enfin c'est plus crado dans le sens plus sexuel, mais Skins avait ce côté un peu genre, enfin je suis désolée, c'est des ados anglais dans une, enfin ça faisait un peu crado dans le sens pas très bien filmé, ils avaient pas l'air super propre objectivement, ils avaient pas l'air de se prendre une douche très souvent, enfin Effie c'est pas un modèle de propreté, et non mais il y avait ce côté un peu plus brut de décoffrage machin etc qui faisait que comme tout était moins léché, bah en fait ça passait presque mieux parce qu'on savait à quoi s'attendre, genre c'était des ados pas très propres dans l'Angleterre, ok, alors que là comme on nous met plein de belles lumières, de super beaux plans, ça a tendance à amoindrir le fait qu'en fait c'est super choquant ce qu'on voit, que ce qui leur arrive à ces gamines c'est super crade, qu'elles se font manipuler par des mecs, violer, frapper, on leur demande de mentir sur des viols, de devenir camgirl à 16 ans. En fait, c'est super grave. C'est super horrible.
C'est vrai que résumé comme ça, c'est
très bien. Il faut le dire.
En fait, il faut le dire parce que c'est pas parce que.
Il y a un consensus autour de la série que.
Moi, je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo là-dessus parce que moi, je peux pas accepter que juste on le prenne, on dise, ah, c'est ce qui s'est fait de mieux sur l'adolescence. Ben non. Moi, je trouve vraiment pas quoi.
Les séries, elles ont une beaucoup plus grande liberté et qu'on se permettrait pas au cinéma, et je serais beaucoup plus enchantée quand le cinéma arrivera à se diversifier et que des films par exemple comme Booksmart, c'est sympa mais ça passe sur Netflix, et alors que ça passe, c'est passé dans les festivals, ça n'a pas été acheté pour passer dans les salles. Le vrai problème au cinéma aujourd'hui, c'est cette facilité à dire ah ben on va tester ce qui marche en série et puis on verra bien si ça prend ou si ça prend pas, on le tente au cinéma. Je serais beaucoup plus contente quand le cinéma, qui est une industrie beaucoup plus puissante, arrivera à dire ok, enfin un peu de courage, surtout c'est sympa, alors on a eu un personnage gay, est-ce qu'on peut enfin avoir des lesbiennes ou des bi, ou en tout cas des personnages femmes queer, parce que c'est quand même un vrai problème, est-ce qu'on peut avoir plus que juste une copine racisée, alors c'est sympa même avec Euphoria, ou des personnages trans, des personnages handy, parce qu'alors on parle jamais d'eux, des personnages musulmans, musulmanes, immigrés, bah, alors ça c'est carrément un autre problème.
Scam a tenté ça d'abord en Norvège puis partout dans le monde, on pourrait épiloguer sur la série, moi j'ai trouvé l'adaptation française catastrophique, alors que moi j'ai adoré Scam, l'original, j'ai vraiment suivi et tout, et je pense que bah, en fait ça fait hyper écho à ce que tu dis, c'est-à-dire que pour voir une jeune femme musulmane voilée, il faut arriver dans une série qui était diffusée sur internet, qui s'échangeait sur des Google Drive, parce que c'était quand même comme ça que Scam a traversé les frontières de la Norvège, c'est que c'était des échanges, des petits épisodes sur sur Google Drive et tout. C'est presque du deal de représentation, quoi. Pour voir une jeune fille musulmane, il fallait passer sous le manteau. Et sûrement pas, en tout cas, à la télé, puisque même en France, SCAM, c'est sur France TV Slash, c'est comme ça s'appelle. Donc, c'est encore une fois, c'est YouTube, c'est Internet. Donc, c'est vrai que c'est super compliqué d'avoir ça à la télé ou sur un écran qui est un peu plus grand que celui de ton téléphone, quoi.
Et en même temps, on a compris quelque chose, hein, c'est que les ados, on va pas se mentir, le cinéma, et là, on l'a vraiment vu avec la pandémie actuelle, le cinéma, c'est une pratique qui est quand même hyper élitiste, faut quand même pouvoir se payer un ticket, aller au cinéma. Et aujourd'hui, on va pas se mentir, c'est à la fois les ados, ils ont pas de thunes pour aller au ciné, ou ils ont pas envie, ou en plus, là, nous, on est à Paris, donc la plupart des films, ils sont quand même souvent en VO. Il y a plein d'ados pour qui c'est déjà... C'est d'un point de vue des compétences, c'est pas du tout dans leur corde. Et je pense qu'on a compris quelque chose, effectivement. Si on a compris que l'importance des teen movies, des teen series, c'est d'abord d'influencer ou d'avoir un impact sur la représentation des jeunes, alors on va les attraper comme on peut. Et on va les attraper sur les réseaux, avec effectivement des web-séries, etc. Alors nous, ça nous emmerde profondément parce qu'on se dit, ah bah oui, je préférais voir ça au cinéma parce que c'est plus fort, effectivement, de voir une petite Mrs. Marvel qui est une super-héroïne pakistanaise et musulmane et américaine. Ça me fait plus plaisir. Et en même temps, les industriels, ils ont compris quelque chose. Les ados, il faut les attraper où ils sont. Et même si ça limite pour nous, une fois encore, d'un point de vue d'adulte, l'idée que l'influence, elle est moins grande, mais pour les ados, l'influence, elle est immense. Effectivement, ils sont sur leur téléphone, ils s'en fichent totalement.
C'est clair.
Et ils peuvent le regarder tout seuls, tranquillement. Une fois encore, on revient à cette question sans adulte, en étant tranquille. Et ça, je pense que, voilà, et moi, je le dis en toute honnêteté, ma frustration de ne pas le voir au cinéma, c'est une adulte qui parle. Et en tant qu'ado, en fait, je serais très contente à cette génération-là d'avoir tout sur mon téléphone.
C'est clair. Eh bien, merci beaucoup pour ce débat. C'était top. Comme on est dans affiché. Comme on est dans affiché, je vous ai concocté l'affiche, une affiche idéale du teen movie. Vous allez me dire si vous avez d'autres idées. J'ai pris une scénariste qui est Michaela Coel. Je ne sais pas si vous la connaissez.
Oui.
Elle a réalisé I May Destroy You et Chewing Gum, qui sont des séries super. Donc, parce que je trouve que tout simplement, elle s'est parlé de sujets hyper sérieux, de manière crue et juste. Mais elle sait aussi elle a une écriture super nerveuse, mais aussi très drôle. Franchement, c'est un de mes coups de cœur là de 2020, I May Destroy You.
C'est vraiment très très bien et très
il faut
très
vraiment le streamer parce que ça a disparu de Netflix et c'est incompréhensible. Il faut vraiment le streamer parce que c'est vraiment hyper bien.
Ils l'ont enlevé.
Ils n'ont pas repayé pour le garder. Ça devait pas être assez regardé, donc il faut le streamer sans complexe.
Voilà, c'est ça. Donc Michaela Coel, je me dis qu'elle doit avoir des trucs à dire sur l'adolescence. En réel, j'avais mis Olivia Wilde parce que du coup, je trouvais que quand elle a réalisé Booksmart, il me semble que c'était son premier film, sa première réalisation. Tout le monde l'attendait un peu au tournant. C'était cette jeune et belle actrice. Et tout le monde était là, oh là là, qu'est-ce qu'elle va nous faire? Et finalement, c'était très cool. Donc moi, je lui donnerais bien un second film. Je sais pas ce que vous en pensez.
Trop sage pour moi. C'est trop lisse, c'est
film,
trop sage.
Elle est en train de le réaliser. Elle fait là, du coup, un thriller qui se passe dans les années 50. L'actrice
Welcome
principale,
le cinéma masculin pour réussir.
C'est Florence Pugh. L'acteur principal, c'est Harry Styles. Donc elle parle plus à la génération Z, tu fais pas. Ouais. Et donc, je trouve que c'est vraiment le retour à un type de film de mec. C'est-à-dire, j'espère en tout cas qu'elle aura une vision originale et tout, mais ça fait vraiment scénario. C'est bon, je suis retournée dans des trucs que Hollywood veut bien me faire faire, c'est-à-dire quelque chose qui se passe dans le passé avec un thriller, donc c'est un genre.
Du costume,
du costume, du jeune acteur beau et de la jeune actrice belle. Jeune actrice d'ailleurs que Greta Gerwig adore, donc ça, elle se le passe, quoi. Les deux réalisatrices blanches d'Hollywood qui se passent leurs acteurs et actrices entre eux.
Il faut voir Midsommar avec elle. Elle est vraiment très très bien.
Florence Pugh est une excellente actrice, hein, c'est sûr, mais c'est intéressant quand même de voir que on érige un peu maintenant des figures du teen movie version 2020. Mais voilà, bref, je faisais le point du coup, puisqu'on lui donne un second film, mais elle s'en est donnée un elle-même.
je lui donne un troisième, voilà. Et non, sinon, en casting, j'avais mis un casting sauvage, voilà, avec des vrais ados qui n'ont pas 25 ans, des gens qu'on trouverait sur TikTok.
On est dans le péril jeune.
Des gens qu'on trouverait dans la rue, sur TikTok, enfin voilà, partout. Des gens.
Des vrais problèmes d'acné, les seins qui ne poussent pas en même temps.
Vincent Lacoste dans Les Beaux Gosses. Quoi.
Voilà, exactement. Les Beaux Gosses, c'était vraiment une bonne représentation de ce que c'est vraiment l'adolescence. Mm-hmm. Hein, c'est
et clair. Puis, ouais, qui aurait des histoires différentes à raconter, qui seraient fondamentalement différentes, tous les uns des autres. Je vois bien un truc un peu choral. Je sais pas, je m'emballe peut-être. Je sais pas ce que vous en pensez de mon affiche.
Bah, il manque Harry Styles, c'est vrai. Mais bon, on fera avec.
Moi, je voudrais surtout plus de diversité autre. Enfin, vraiment, la diversité sexuelle, de neurodiversité. Je trouve qu'on est toujours très centré sur les questions de genre. Classe, c'est déjà un petit peu compliqué. Mm-hmm. Et race, parce que voilà, on est très dedans un petit peu. Mais je pense que les grands paramètres qui sont toujours oubliés en termes d'inclusion, c'est alors, on est vraiment sur des personnages tous hyper neurotypiques. Et la neurodiversité, c'est quand même. Enfin, il faut y venir.
D'arrêter de fantasmer l'adolescence ou toutes ces représentations, quoi. Parce que ça fait que du mal à la fois aux spectateurs et puis aux acteurs, je pense. Enfin, ça, c'est pas un cercle vertueux, quoi.
Non, on va réaliser un documentaire, je pense.
Et là, c'est parti.
Bah, merci beaucoup. Merci à toutes les trois d'avoir participé.
Merci, c'était un plaisir.
Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous avez aimé, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast, ainsi qu'un petit commentaire, on adore ça. Et puis, bien sûr, parlez-en autour de vous, car le bouche à oreille, vous savez, c'est ce qui fonctionne le mieux. Et puis, à très bientôt dans un nouvel épisode d'Affiché.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.